Pour la troisième fois, et toujours par moyen d'argent, il avait muselé Valois. « Il était temps que je sois couronné, » dit Philippe à son argentier quand Valois fut parti. « Car s'il m'avait fallu discuter encore, je crois que la prochaine fois j'aurais dû vendre le royaume. » Et comme Fleury s'étonnait de l'énormité de la somme promise, « Rassurez-vous, rassurez-vous, Geoffroy, » ajouta-t-il, « je n'ai point encore marqué quand cette donation serait versée. Il ne la touchera que par petites fractions, mais il pourra emprunter dessus. Maintenant, allons souper. » Le cérémonial voulait qu'après le repas du soir, le roi, entouré de ses officiers et du chapitre, se rendit à la cathédrale pour s'y recueillir et faire oraison. L'église était déjà toute prête, avec les tapisseries pendues, les centaines de cierges en place et la grande estrade élevée dans le chœur. Les prières de Philippe furent courtes, mais il passa néanmoins un temps considérable à se faire instruire une dernière fois du déroulement des rites et des gestes qu'il aurait lui-même à accomplir. Il alla vérifier la fermeture des portes latérales, s'assura des dispositions de sécurité et s'enquit de la place de chacun. Les pères laïcs, les membres de la famille royale et les grands officiers sont sur l'estrade, lui expliqua-t-on. Le connétable reste à côté de vous. Le chancelier se tient à côté de la reine. Ce trône en face du vôtre est celui de l'archevêque de Reims, et les sièges disposés autour du maître-autel sont pour les pères ecclésiastiques. Philippe parcourait l'estrade à pas lents, aplatissait du bout de son pied le coin soulevé d'un tapis. « Comme c'est étrange, » se disait-il. « J'étais ici à cette même place l'autre année, pour le sacre de mon frère. Je n'avais point porté attention à tous ces détails. » Il s'assit un moment, mais non sur le trône royal. Une crainte superstitieuse lui défendait de l'occuper déjà. « Demain, je serai vraiment roi. » Il pensait à son père, à la lignée d'aïeux qu'il avait précédé en cette église. Il pensait à son frère, supprimé par un crime dont il était innocent, mais dont tout le profit maintenant lui revenait. Il pensait à l'autre crime, celui commis sur l'enfant, qu'il n'avait pas ordonné non plus, mais dont il était le complice muet. Il pensait à la mort, à sa propre mort, et aux millions d'hommes, ses sujets, aux millions de pères, de fils, de frères, qu'il gouvernerait jusque-là. Sont-ils tous à ma semblance? Criminels s'ils en avaient l'occasion, innocents seulement d'apparence, et prêts à se servir du mal pour accomplir leur ambition? Pourtant, lorsque j'étais à Lyon, je n'avais que des vœux de justice. Est-ce bien sûr? La nature humaine est-elle si détestable, ou bien est-ce la royauté qui nous rend ainsi? Est-ce le tribut que l'on paye à régner, que de se découvrir à tel point impur et souillé? Pourquoi Dieu nous a-t-il fait mortels, puisque c'est la mort qui nous rend détestables, par la peur que nous en avons, comme par l'usage que nous en faisons? On va peut-être tenter de me tuer cette nuit. » Il regardait de hautes ombres vaciller sur les murs entre les piliers. Il n'éprouvait pas de repentance, mais seulement un manque de bonheur. Voilà sans doute ce que l'on appelle faire oraison. Et pourquoi l'on nous conseille la nuit avant le sacre cette station en l'église? Il se jugeait lucidement tel qu'il était, un mauvais homme avec les dons d'un très grand roi. Il n'avait pas sommeil. Il fut resté volontiers là longtemps encore à méditer sur lui-même, sur l'humaine destinée, sur l'origine de nos actes, et à se poser les vraies grandes questions du monde, celles qui ne peuvent jamais être résolues. Combien de temps durera la cérémonie? Demanda-t-il. Deux pleines heures, sire. Allons, il faut nous forcer à dormir, nous devons être dispos demain. Mais lorsqu'il eut regagné le palais archiépiscopal, il entra chez la reine et s'assit au bord du lit. Il entretint sa femme de choses sans intérêt évident. Il parlait des places dans la cathédrale. Il se souciait du vêtement de ses filles. Jeanne était déjà à demi endormie. Elle luttait pour rester attentive. Elle discernait chez son mari une tension des nerfs et une sorte d'angoisse montante contre laquelle il cherchait protection. « Mon ami, » demanda-t-elle, « voulez-vous dormir auprès de moi ?» Il parut hésiter. « Je ne puis, le chambellan n'est pas prévenu, » répondit-il. « Vous êtes roi, Philippe, » dit Jeanne en souriant. « Vous pouvez donner à votre chambellan les ordres qu'il vous plaît. » Il mit un temps à se décider. Ce jeune homme, qui savait par les armes ou l'argent mater ses plus puissants vassaux, éprouvait de la gêne à informer ses visiteurs qu'il allait, par désir imprévu, partager le lit de sa femme. Enfin, il appela une des chambrières qui dormait dans la pièce attenante et l'envoya prévenir Adam Héron qu'il n'eut pas à l'attendre ni à coucher cette nuit en travers de sa porte. Puis, entre les tentures à perroquets, sous les trèfles d'argent du ciel de lit, il se dévêtit et se glissa dans les draps. Et cette grande angoisse, dont ne pouvaient le défendre toutes les troupes du connétable, car c'était angoisse d'homme et non angoisse de roi, s'apaisa au contact de ce corps de femme, contre ses jambes fermes et hautes, ce ventre docile et cette poitrine chaude. « Mamie, » murmura Philippe dans les cheveux de Jeanne, « Mamie, réponds-moi. M'as-tu trompé ? Réponds sans crainte, car même si tu m'as trahi naguère, sache-toi pardonner. » Jeanne étreignit les longs flancs secs et robustes, où l'ossature était sensible sous les doigts. « Jamais, Philippe, je te le jure, » répondit-elle. « J'ai été tenté de le faire. Je te le confesse, mais je n'ai point cédé. Merci, mamie, chuchota Philippe. Rien ne manque donc à ma royauté.
Il ne manquait plus rien à sa royauté, parce qu'il était en vérité pareil à tous les hommes de son royaume. Il lui fallait une femme, et qu'elle fût bien à lui.